Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Exécuté par
qui?
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies. Voies V-O-I-E-S. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers, et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de succès, de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas, et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro, en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Paul Taylor, l'humoriste anglo-irlandais qui a l'accent français le plus imperceptible au monde pour un anglo-irlandais. Paul nous raconte sa petite enfance, comment il en est venu à monter sur scène, spoiler, parce qu'il trouvait les humoristes d'un plateau particulièrement nuls, et comment il s'est lancé dans la vie de troubadour blaguiste alors qu'il était confortablement installé en CDI dans un poste de formateur chez Apple. Il raconte aussi la genèse de cette vidéo La Bise, qui l'a fait connaître partout en France avant de le propulser sur Canal+, moins d'un an après qu'il ait décidé de se lancer. Et ça, c'est cool, hein. On parle du succès, de ce qu'il génère chez lui, de cette peur incessante que, comme ils disent, la vague redescende. Merci à Paul de s'être livré. C'était un vrai bonheur de lui parler et j'espère que ça vous plaira à vous également. Bonne écoute. Nouveauté lors de cette saison, je voudrais vous offrir la possibilité, après chaque épisode, de m'envoyer une réaction en message vocal. Je sélectionnerai un ou deux ou trois messages que je diffuserai à la fin de l'épisode suivant et peut-être même que j'y réagirai. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou envoyez-moi une note vocale par téléphone, pas plus de 3 minutes, sur l'email vocal@fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. Je vous mets toutes les infos dans les notes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute.
Welcome to Success Stories.
Yeah. C'est vachement mieux. Tout est mieux en anglais.
C'est ce qu'on me dit. Mais c'est vrai, quand on s'écoute, on a l'impression d'avoir une autre voix.
Ouais.
Enfin, je sais que c'est très con ce que je viens de dire, mais...
Non.
Parce que ça résonne... Mais,
tu t'entends pas de la même façon dans ta tête.
Parce que si j'enlève mon casque et je fais « Good evening, welcome to Success Stories », ça va paraître moins classe dans ma tête sans écouter ma voix.
Il y a des gens qui ont un mal fou, notamment il y a plein de gens qui lancent des podcasts là en ce moment, ils ont un mal fou à s'entendre leur propre voix.
Ouais, je comprends. Ça, moi, tout le monde est c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil la première fois. Ben, c'est un peu moins le cas maintenant pour la nouvelle génération parce que depuis tu vois ma fille elle a 2 ans, elle se regarde déjà sur le téléphone les vidéos que nous on a pris d'elle, donc elle est habituée à se voir. Mais je me souviens la première fois de m'avoir vu à l'écran. J'ai détesté parce que du coup, je suis pas habitué à me voir. Je suis habitué à me voir dans un miroir.
Dans un miroir.
Et en fait, dans le miroir, t'es inversé en fait. Donc, t'as l'impression que ton nez il penche d'un côté, mais en fait, il penche de l'autre. C'est très bizarre. Mais ça, je crois que c'est. Bah, on est la dernière génération de vivre ce truc-là parce que ma fille, elle va se dire, bah ouais, je sais ce que j'ai l'air. Parce qu'elle a 2 ans, elle se voit déjà comment elle est en fait.
Oh,
c'est fou, hein.
Et puis l'année prochaine, elle aura des filtres sur Snapchat, tu vois, où elle aura la peau complètement lissée et tout. Et,
c'est ça.
Et puis dans 5 ans, elle fera.
Je crois qu'il y aura une. À mon avis, il va avoir une révolte de cette génération-là.
Ouais.
À un moment donné, ils vont faire ils ont déjà fait des trucs no filter.
Je
crois que ça va vraiment partir. Je crois. Et no filter, no technologies. Je crois qu'ils vont péter un câble à un moment donné, cette génération-là.
Tu crois?
Je crois, ouais. Peut-être pas, mais j'ai un peu l'impression. Ou ça va être nous, les vieux, et on va dire à un moment donné. Moi, je suis. Si les réseaux sociaux c'était pas mon boulot, En fait, je follow plus personne. Donc, j'ai plus d'actualité de personne. Mais je suis obligé. Moi, je poste les photos en mode « Ouais, j'étais au spectacle hier. Trop bien. Merci d'être venu. » Et puis, les gens, ils commentent et ils sont contents et tout ça. Mais en vrai, j'ai la flemme.
Et sur ton compte Insta, par exemple, PT Comedy ?
PT Comedy.
Tu follow plus personne ?
J'ai zéro follower. Zéro following.
Et donc, tu passes pour un connard ?
Je passe pour un connard ou je passe pour un mec stylé. Genre, ah ouais, c'est stylé d'avoir zéro personne. Mais c'est drôle parce que avant-hier, on était à Montpellier. Pour le spectacle, et j'avais invité tout le public à aller boire un verre au pub anglais du coin. Et il y avait une femme anglaise.
T'avais invité tout le public ?
Ouais, donc ils étaient 500, mais du coup, il y a que vraiment. Il y avait 40-50 personnes qui étaient okay. au bar. Parce que les gens, ils ont pas le temps, tu sais, ils ont autre chose à faire dans leur vie que prendre un verre dans un pub okay. après un show qui termine à 22h. Donc. Et il y avait une anglaise et du coup elle avait un truc de je sais pas comment t'appelles ça en français, mais elle travaille avec les chevaux et elle crée les trucs que tu mets sur les chevaux pour t'asseoir dessus.
Les selles
voilà okay. mais les selles en dessous du bras ouais. Mais ça, c'est souvent une merde que moi je vais faire où je vais dire, ah bon, les selles, et ça s'écrit comme ça. Et
t'as une vanne d'autres trucs sur Gad Elmaleh.
Oui, Gad Elmaleh, exactement. Bah, c'est typiquement ce truc-là où je vais penser que ça s'écrit d'une autre manière où ça, ah, c'est deux mots, en fait. Ok. Et bref, donc on était dans le pub et puis elle m'a dit, ouais, j'ai ce compte Insta. Je dis, désolé, je follow personne. Et je dis, tiens, écoute, tu vas être la seule personne que je follow. Mais bon, là, je l'ai unfollow dans le train quand je suis retourné tout à l'heure.
Faut se calmer, quoi.
Ouais.
Ah ouais, donc en fait, t'as un Instagram vide.
Ouais.
Ok.
Donc moi, quand j'ouvre mon Instagram, j'ai que moi, en fait. J'ai pas le... Parce qu'en vrai...
Bravo le cliché du comédien narcissique, quoi.
Ouais, mais tu... Oui, un peu, mais tu... Et pour être sérieux, c'est parce que j'en avais marre, en fait, de regarder ce que faisaient les autres et être... être triste ou jaloux qu'ils faisaient des trucs que moi je faisais pas, de me dire putain, pourquoi moi j'ai pas été invité à tel truc, pourquoi j'ai pas fait ce truc là, ah ouais, lui il est en train de cartonner avec son truc lorsque moi je suis une merde, et en fait j'avais des.
C'est un truc que t'avais ?
Ouais, de ouf, mais je crois que tout le monde dans le milieu, en vrai, même s'ils avouent pas, ils sont en compétition avec tout le monde, enfin, lui il a plus de followers, sa vidéo elle a fait plus de vues, son podcast est plus écouté, sa salle elle est plus grande, whatever it is, et en fait. J'en avais marre d'avoir ces sentiments et je me suis dit la phrase qu'on dit en anglais c'est you run your own race, genre tu cours ta propre course et arrête de regarder autour de toi et cours toi ta course à toi et si j'ai pas tout cette distraction parce que c'est trop facile d'ouvrir Instagram et scroll et tu vois tout ce qui se passe, donc j'ai enlevé cette possibilité là okay. Après je me retrouve des fois quand je suis vraiment ennuyé, je vais dans la petite loupe qui est la recherche et en fait ça te soit j'ai envie de voir qu'est-ce qu'elle fait Tania Dutel en ce moment parce que elle fait ma première partie,
c'est
mais j'ai
copine.
Envie de voir ce qu'elle fait ouais c'est une copine, qu'est-ce que fait Urbain Courty, qu'est-ce que Topito en ce moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, enfin ça m'intéresse donc j'y pense et je me dis ah je vais voir ce qu'ils font
mais ça te vient pas dessus,
non c'est ça, c'est pas, il faut que j'aille chercher l'info, c'est pas c'est pas forcé dans mon feed, après c'est très c'est très hypocrite parce que moi, je me force, moi, dans les feeds des autres. Après, c'est leur choix, ils me suivent, donc...
Oui.
Mais bon, je contribue à la plateforme, mais je la consomme pas. Je sais pas si tu...
Ouais, si, si. Y a plein de questions par rapport à ça, de contribuer à la plateforme de la part des créateurs, je trouve, et de rentrer un peu dans le système tout en continuant à le critiquer. Enfin, tu vois, là, ta vision, elle est hyper intéressante. Ouais. Et d'un autre côté, tu dis, j'en ai besoin, moi, en tant que créateur. Quoi.
Puis même aussi, c'était un côté perso. Je voyais des potes à moi que je suivais, avec leurs enfants nouveau-nés aussi, avec leurs photos parfaites de l'anniversaire, des journées des mamans, fêtes des pères, c'est parfait, tout ça. Et pendant ce temps-là, nous, on avait l'impression de galérer de ouf avec notre petite. Et puis, j'en avais marre aussi de voir ça, en fait, la vision parfaite, parce que je sais que c'est pas comme ça, en fait. Mais c'est tout ce qui... Donc, moi, aussi, par choix, avec ma femme, on a décidé de pas du tout mettre la petite sur Internet. Donc, personne ne sait son visage, à part les gens qui l'ont vu en vrai, en fait.
Ok.
Donc c'était un mélange perso et pro.
Tu parlais de succès tout à l'heure. En tout cas, tu disais, d'aller se comparer aux autres qui ont des plus grandes salles, etc., etc. Et c'est une question qui revient souvent dans le podcast parce que les gens, j'ai des invités qui sont venus me voir en me disant, mais en fait, je comprends pas pourquoi tu m'invites maintenant parce que en fait, je suis pas arrivé au succès. Et tu vois, mais comme tu me dis là, bah justement, tu t'es en tournée là, ouais. Tu vas jouer au Grand Rex à Paris, qui est une grande salle, ouais. le 19 et 20. Voilà. Donc, trop bien, quoi, ouais. Tu vois. Et je me dis, mec, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais c'est quoi, en fait, pour toi, si demain tu devais te dire, OK, le succès pour moi, c'est ça?
En vrai, la vraie réponse, c'est que c'est déjà le cas, en fait. Parce que je gagne de l'argent en faisant un truc que j'ai voulu faire. C'était un peu le truc de suivre son rêve, cette connerie américaine où on est là, oui, let's follow our dreams, oh my god. Et en vrai, j'ai réussi ça, mais je sais pas, je crois qu'il y a certaines personnes dans le monde qui sont programmées à jamais être contents et toujours vouloir plus, que ça soit dans une relation amoureuse, que ça soit avec le boulot, que ça soit whatever la catégorie. Et je crois que heureusement ou malheureusement, je crois que c'est plus malheureusement pour moi, j'ai cette programmation parce que je sais dans le fond, peu importe ce que je vais faire, je vais toujours me dire putain, il y a quelqu'un d'autre qui fait mieux, il y a toujours quelqu'un d'autre qui fait mieux, il y a personne qui est en haut de tout qui dit c'est sûr, tu demandes à Elon Musk ou à Tim Cook ou Ricky Gervais en humour ou peu importe, genre ils vont dire, ouais, je suis pas content parce que j'ai pas encore fait ça, je suis pas encore arrivé à atterrir sur Mars. On n'a pas encore arrivé à. Tu vois, je crois que c'est un truc qui est programmé dans la. Je sais pas, dans le cerveau, dans l'ADN de certaines personnes. Et il y a d'autres personnes que des fois j'envie beaucoup, qui sont hyper contents avec leur vie. J'ai un pote anglais, sa mère, elle a travaillé dans le même supermarché toute sa vie. Elle est hyper heureuse. De faire ça. Et elle a jamais voulu un poste de manager. Elle était juste hyper contente de travailler ces heures qu'elle travaillait, de gagner de l'argent et de vivre ça. Et franchement, j'aime bien ça aussi.
On va reparler un peu parce que sur ton parcours, tu viens quand même de. T'étais vendeur, enfin, t'étais chez Apple en tout cas, commencé vendeur.
J'ai commencé vendeur. Ouais.
Après, t'as grimpé un peu les échelons. Et quand t'as décidé de tout plaquer, tu t'es dit, bon, ok, je vais aller faire des blagues et gagner ma vie grâce à ces blagues. Donc aujourd'hui, comme tu le dis, t'y es arrivé.
Ouais.
T'arrives à profiter un peu de cet achievement?
Oui, bien sûr. Mais, en fait, la difficulté, enfin c'est toujours positif, négatif. Le côté positif, c'est que là, je suis assez occupé tout le temps. Il y a plein de trucs. Là, pour ceux qui écoutent, en fait, moi, je suis arrivé en retard parce que je prenais un train de Marseille parce que j'avais fait Lyon-Montpellier-Marseille vendredi, samedi, dimanche. Là, on est lundi. Et du coup, après toi, j'ai une autre interview et après moi, j'ai mon propre live sur YouTube. Donc, en fait, entre guillemets, j'en profite quand, par exemple, je prends le train et il y a pas de réseau et il y a pas quelqu'un qui m'appelle, il y a pas des trucs où j'ai genre 10 minutes d'espace dans ma tête où je me dis putain ouais en fait c'est stylé, mais je passe pas assez de temps. Crois que je vais mettre à la méditation, mais honnêtement parce que j'ai entendu beaucoup de j'écoute beaucoup d'interviews et je lis beaucoup de biographies sur des gens, pas dans le milieu forcément de l'humour, mais des gens qui ont créé Twitter, Elon Musk, Steve Jobs, tous ces gens-là. Et en vrai, ils méditent tous, genre au moins 10 minutes par jour. Mmh. Et je crois que ça te permet de...
Moi, je l'ai fait pendant 2 ans, si tu veux, je te raconte.
Bah ouais, grave.
Et je me suis un peu calmé maintenant, mais je sais, j'ai trouvé à quoi ça servait. Ouais. C'est qu'en fait, ça te permet de pouvoir vraiment, et c'est un peu idiot à dire, mais c'est de pouvoir te poser 2 minutes et de pouvoir tout de suite enclencher ce qu'ils appellent un peu la pleine conscience, c'est-à-dire, ah putain, je suis bien là.
Ouais. Et c'est quelque chose que, surtout vivant à Paris aussi, c'est très compliqué de trouver ce...
Et en fait, tu vois, tout à l'heure, je me suis, effectivement, t'étais en retard, donc moi, j'étais un peu en avance. Et
non, mais souvent, c'est l'inverse. Mais non, c'est moi l'anglais qui est en avance, oui. Et puis les Français, ils sont en retard. Donc là, on a switché.
Tu l'as vu en live avec Verino, il était à la bourre et tu l'as branché pendant tout le temps, mec. Et en fait, tu vois, je me suis posé le cul. Il y avait un rayon de soleil. Il pleuvait ce matin. Je disais, il pleut, c'est nul. Là, il y a un rayon de soleil. Je me suis posé le cul sur une terrasse. J'étais au top.
C'est trop bien.
Tu vois, et vraiment, je me suis dit, ah, et en fait, c'est ça la vie, en fait,
ouais.
Le bonheur. C'est juste Tu prends 5 secondes comme ça pour toi et tu fais c'est cool, ça me chauffe un peu ouais. le visage, là, c'est sympa.
Ouais. Et puis je crois que la technologie aide pas, mais des fois elle aide. Là, je parce que je suis toujours un peu un geek Apple parce que j'ai bossé chez eux pendant 9 ans.
Ouais, puis t'adores ça.
Ouais, c'est mon côté. J'en parle pas trop dans les spectacles ni dans les lives un peu. Enfin,
je t'ai vu faire des vidéos là sur la.
Et j'en ai essayé. Ouais, c'est vrai que j'en ai fait sur la chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos un peu unboxing juste parce que je trouvais ça drôle. Je me suis dit mais ça. J'ai bossé pendant 9 ans chez Apple et j'ai jamais vu un YouTuber qui était genre la version ex Apple employé.
Insider quoi.
Insider. Sur les trucs là. Et mais là il y a donc je me suis acheté le 13 Pro qui est sorti il y a 3 jours et il vient avec le nouveau iOS 15 et en fait il y a une fonctionnalité maintenant que tu peux donc il y avait le mode nuit à la base où tu mets en mode nuit, t'as pas de notification, mais maintenant t'as un mode travail, t'as un mode dormir et t'as plusieurs façons. Donc dans le mode travail, c'est genre voici les gens qui peuvent m'appeler pendant ce temps-là, voici les notifications que les applications que je veux pas recevoir de notifications. En fait, tu veux vraiment personnaliser le truc. Donc je trouve que en même temps la technologie, c'est le truc qui nous empêche d'avoir un peu l'esprit libre parce qu'on est toujours sur notre téléphone à voir Instagram, à Twitter, à envoyer des textos et tout ça. Mais du coup, je crois que maintenant de toute façon, on n'a pas le choix, mais maintenant, ils ont intégré ces trucs-là pour qu'on puisse vraiment rentrer et puis retrouver un peu cette...
Ils n'ont pas le choix,
de toute façon. Ces minutes de nous-mêmes... des minutes de nous-mêmes, ça n'avait aucun sens, mais c'était minutes de...
Avec soi.
Avec soi, ouais, avec voilà, soi. Exactement.
Ok. Bon, on a dérivé loin, mais tu sais que ce podcast, à la base, il est censé parler de ton parcours. Donc, on est parti très, très
dans
loin.
Dans des trucs philosophiques tout de suite, mais c'est très bien.
Mais c'est très bien. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi tu ressemblais, Paul, quand tu avais 7-8 ans?
Alors, j'étais très, très blond, mais hyper, genre blond, et un peu bronzé. Parce que...
Surfeur, quoi.
Ouais, après... Je dis ça, je base ça sur une photo de moi dans une photocabine avec ma mère. Et en vrai, je crois qu'elle est en noir et blanc. Donc, je sais pas si j'étais... Et je suis torse nu. Donc, mais ouais, comme à 7-8 ans, j'étais en France, pas loin de la Suisse, en fait. On était en Haute-Savoie. 7-8 ans, où est-ce que j'étais exactement? J'étais à Annemasse.
Okay.
C'est là où j'habitais et donc du coup il fait assez beau et assez chaud dans ces endroits-là et donc du coup je crois que je suis incapable de bronzer maintenant parce que en retournant en Angleterre forcément j'ai perdu la pigmentation à la fin. Non on en a plus besoin maintenant de ce côté bronzage, donc du coup ça n'existe plus, mais ouais, j'aimais beaucoup le basket à ce moment-là. Je me souviens dans cette maison j'avais un petit panier genre Chicago Bulls. J'étais fan de Michael Jordan. Et j'avais un chat.
Il s'appelait comment?
Il s'appelait Chocolat. Oh. Ouais, et il était tout poilu. C'était comme un chat de gouttière, je sais pas comment on dit ça, un chat de gouttière, c'est ça? Mais il était tout poilu et puis on le voyait pas souvent parce qu'on habitait à la campagne. Parce que
il se baladait.
Ouais, il se baladait et puis il revenait quand il avait faim.
Tu faisais déjà des blagues à l'époque?
Non. non, pas consciemment en tout cas.
C'était pas le bout en train de la classe.
Je crois pas. Et je crois que vers 7-8 ans, ça a dû être pas ouf parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Donc je crois qu'à ce moment-là, ils devaient bien s'engueuler beaucoup dans mon souvenir. Enfin, j'ai pas énormément de souvenirs. Mais non, j'étais pas très rigolo à ce moment-là. J'étais plus un petit con qui faisait des conneries. Par exemple, dans cette maison-là, c'était au moment où maman, j'ai raté l'avion.
Ouais.
Et le deuxième était sorti. Et dans le deuxième, il y a une scène où Kevin, il prend une brique, il écrit un mot dessus, et il jette la brique et ça pète la fenêtre à un magasin de jouets. Mais parce que les gars qui vont voler, ils vont voler le magasin de jouets. Donc je m'en rappelle plus pourquoi il lance la brique. C'est pour péter la fenêtre, pour faire sonner l'alarme pendant qu'ils sont en train de voler le truc. Okay. Comme ça, les policiers ils viennent et donc il dit désolé d'avoir pété la fenêtre. Et moi j'avais pas de brique, mais j'avais pris un petit contenant d'huile en métal, genre l'huile pour la bagnole.
Ouais.
En métal, et j'ai écrit un mot dessus et j'ai pété la fenêtre de notre garage parce que j'étais con
pour tester.
je sais pas, pour tester, je me mettais au bout de mon, pas mon garage, mais le driveway, je sais pas comment t'appelles ça.
L'allée.
L'allée. Mm. Et quand les voitures passaient, je faisais un jet d'eau de mon super soaker à toutes les voitures qui passaient. Mais je me cachais dans le buisson, quoi.
Bah ouais.
Pour qu'ils me voyaient pas.
Mais on a tous fait ça, non?
Je crois, ouais. Mais je me souviens pas de faire des blagues à ce moment-là.
Oui, t'étais pas... T'étais pas le mec qui montait sur scène et qui... Non. Enfin, qui montait sur la scène de l'école.
Du tout.
Sur le podium.
Non, du tout. J'étais... je crois que j'étais toujours... je crois que j'étais timide à ce moment-là. Enfin, je suis toujours timide. Mais comme je bougeais beaucoup d'écoles et changeais beaucoup d'écoles, j'étais toujours le nouveau à ce moment-là. Donc du coup, je crois que je n'arrivais pas trop à m'intégrer correctement. J'avais pas beaucoup de potes. Et ouais, un petit français à l'époque.
Bah oui, mais rappelons, justement, rappelons pour les gens qui te connaissent pas trop que mais t'as fait ta carrière là-dessus pour l'instant.
Oui, ouais, c'est ça.
Que t'as vraiment une biculture et t'es pas du tout... de nationalité française, en fait. Ta mère est irlandaise.
C'est ça.
Et ton père est
anglais.
Donc, mais t'as vécu longtemps en France.
J'ai vécu 5 ans en France, donc de l'âge de 4 à 9 ans, j'étais en France. Et après, quand mes parents se sont séparés, bah, du coup, je suis rentré en Angleterre avec ma mère. Et mon père, il est resté vivre en Suisse, là où il travaillait à Genève. Et
D'où cet accent impeccable qui est étrange. Pour le coup, parce que t'as parlé donc 5 ans.
Ouais, j'ai parlé 5 ans, mais en même temps, donc je crois que sur les 5 ans, j'ai fait 2 ans dans une école française et les 3 autres années, j'étais dans une école internationale. Donc mon français était bon, mais il n'était pas au niveau des français. En fait, j'avais pas le niveau d'anglais ni de français pour un gamin de mon âge à cette époque-là.
T'étais au milieu.
C'était comme les lave-linge, sèche-linge 2 en 1.
Ou les. Magnétoscope, télévision.
Exactement.
De l'époque.
Ça faisait pas exactement les deux parfaitement, ça faisait un mélange des deux pas mal, tu vois.
Est-ce qu'il existe encore des trucs aujourd'hui bi comme ça? T'as raison, le lave-linge sèche-linge, mais...
Le lave-linge sèche-linge, c'est l'exemple que j'utilise toujours, mais il y a forcément d'autres trucs...
Un iPhone, ça fait...
Ça fait
ordinateur.
En fait, ça fait trop de trucs l'iPhone, tu vois. Tous les même si c'est pas un iPhone, c'est un Samsung Galaxy, ça fait trop, ça fait caméra. Mais ouais, effectivement, c'est pas le meilleur appareil photo, c'est pas le meilleur navigateur internet, c'est pas le meilleur téléphone si tu veux juste le téléphone, la qualité souvent comme il y a tellement donc du coup c'est mieux si tu veux vraiment parce qu'en vrai, on pourrait faire ce podcast sur un iPhone.
Bien sûr.
Mais du coup, c'est pas le meilleur micro.
Non.
Donc du coup, c'est pour ça qu'on a l'équipement. Donc ouais, c'était un peu ce truc-là.
Ok.
Que j'étais polyvalent, mais pas... Je maîtrisais aucune des langues.
T'étais, pour le coup, très loin de tout ce qui est humour à l'époque. Tu sais, parce que tu disais que t'avais une passion pour le basket quand t'avais 7-8 ans, mais ça t'est venu quand, cette passion pour faire des blagues?
J'ai du mal alors la passion pour faire les blagues, pour moi-même faire les blagues, je sais pas. La passion pour la blague dans le sens où j'ai commencé à regarder les humoristes, j'ai un souvenir assez vivide, ça se dit non, vivide.
Vivide, mais je crois, je sais pas,
vivide,
vivace.
Vivace, c'est genre qui est très imprégné. Je maîtrise toujours pas les deux langues. Hein. C'est pour ça que je suis toujours un lave-linge, sèche-linge. J'avais 17 ans.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Et quand j'étais j'allais dans un college, mais en français vous dites pas college, un lycée.
High school.
High school. Well, on n'a pas des high school en Angleterre.
Ah oui, c'est le college.
C'est les deux dernières années avant l'université.
Ok, d'accord.
Donc je crois que c'est le lycée.
C'est le lycée.
17-18. Et j'allais, donc à 18 ans, la deuxième année, j'avais mon permis, donc je conduisais de la ville où j'étais pour aller à la ville où était mon lycée. Mais la première année, je prenais le bus. Et je me souviens que j'avais un pote à l'époque qui m'avait branché sur sur Eddie Izzard.
Bah oui.
Et à l'époque, je sais pas comment, parce que j'avais pas d'iPod, mais j'écoutais son stand-up dans le bus à un moment donné. Et je me rappelle plus comment. Si okay. c'était en mini-disque, si c'était.
C'était pas en cassette audio.
Non, c'est sûr, c'était pas
t'es
en cassette audio. Ouais. Non, ouais, j'ai raté les cassettes audio de quelques années.
Ouais.
Moi, c'était les Discman et les mini-disques surtout. J'étais obsédé par les mini-disques à un moment donné. Et donc, ouais, en tout cas, j'écoutais ça. Et après. Ouais, c'est parti de là. C'était peut-être le premier que j'écoutais vraiment. Et puis après, j'ai découvert d'autres humoristes au fur et à mesure. Et après, la passion pour monter sur scène et tenter de faire ma chance, c'est venu en 2009, quand j'étais dernière année d'université. Et il y avait une soirée de stand-up à l'université, organisée par l'université, dans le bar de l'université. Et j'ai trouvé que les humoristes, ils étaient pas ouf. Il y en avait deux, il y en avait trois. Un gars qui faisait 10 minutes, le deuxième qui faisait 20 et le troisième qui faisait 45.
C'était des étudiants comme toi, quoi?
Non, c'était des vrais professionnels.
Okay.
C'était des professionnels du circuit de l'humour à Londres. Celui qui, en fait, il y a une hiérarchie dans le stand-up en Angleterre, c'est que soit tu open, soit tu fais l'ouverture,
ouais.
qui est 10 minutes, soit t'es the middle act qui ouais. fait 20-25, ou t'es the headliner qui fait 45, une heure. Lui, il était bon. Mais les deux premiers... Je me souviens qu'on rigolait pas, en fait. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est des gars professionnels. Ça semble pas si difficile que ça, en fait. Tu vois? Et en vrai, ils étaient marrants. C'est juste que ils avaient pas, c'était une mauvaise, maintenant que je sais, avec le recul d'avoir bidé sur scène beaucoup de fois, je me dis, ouais, en fait, c'était pas marrant. C'est juste que c'était une soirée dure pour eux parce que le public. Mais ça m'a mis, je me suis dit, mais, ok, donc eux, ils sont payés pour faire ça. Moi, je crois que je peux le faire, en fait. Donc, je tape sur Google, comment tu deviens humoriste, tu fais des scènes ouvertes. Et puis, j'ai fait quelques scènes ouvertes à Londres avant de déménager à Paris en 2009, en août. Donc, entre février et août 2009, j'ai dû faire 10 scènes ouvertes
okay.
à Londres avant de déménager à Paris.
T'as le souvenir de ta première scène?
Ouais.
Comment ça se passe?
Alors, c'est une scène ouverte où on était... donc, j'ai ramené... 3-4 potes, et c'était on était là en public, et à un moment donné il y a un gars qui monte sur scène qui va pour faire ses 5 minutes, et en fait il devient trop nerveux, il y avait un problème technique parce qu'en fait il s'était enregistré chez lui et il voulait l'idée c'est qu'il allait montrer, il allait mettre son ordi portable devant son visage et pendant qu'il était debout avec son ordi portable, c'était lui à la maison qui parlait et qui faisait les blagues.
Okay.
Sauf qu'il y a un problème avec les enceintes, il y a un problème technique, c'était trop compliqué. Donc il s'est désisté. T'es nerveux, il tremblait, tout ça. Et un de mes meilleurs potes, il m'a dit « Mais va demander au MC si tu peux faire les 5 minutes, enfin si tu peux remplacer ce gars-là. »
T'avais rien écrit, toi, t'étais...
Alors, c'est pas que j'avais rien écrit, j'avais une idée de ce que j'aurais raconté si jamais j'allais faire ça. Parce que là, on était toujours en mode observation.
Okay.
J'allais voir, je crois que j'ai dû aller voir... 5 ou 6 scènes ouvertes juste pour voir la vibe et le malaise qui est dans la salle parce que tout le monde débute donc tout le monde est nul donc le public il y a un malaise total et là il dit demande et je dis non parce que tu sais j'ai pas vraiment préparé, il dit ta gueule, donc pendant l'entracte il a demandé au mec et il m'a dit ouais donc en fait c'était là où il fallait que je fasse les premières 5 minutes et c'était pas ouf. C'était pas nul, mais c'était pas ouf. Mais parce que quand tu débutes, à part si t'as fait des cours de théâtre et t'es préparé à la scène, etc., ta première scène, c'est... Tes premières 50 scènes, elles sont nulles. Dans ta tête, ça se trouve que c'est bien, mais c'est horrible.
T'as une vidéo de ça?
Ouais.
J'ai jamais montré.
De cette scène-là, non, j'ai pas la vidéo de cette okay. scène-là. Mais j'ai la vidéo... j'ai la vidéo de la deuxième ou troisième. Qui est un peu la genèse, ça se dit,
ouais.
De la blague de mon sketch sur la bise.
Ah, yes.
Je me suis rendu compte, en fait, j'avais oublié que je faisais ça à Londres, même avant de venir en France. Parce que j'avais rencontré ma femme à Londres.
Ok.
Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et donc, du coup, je crois que j'avais écrit... Enfin, j'avais pensé à ce truc-là parce qu'elle m'avait invité, je crois, à une soirée où il y avait des Français à Londres et où tout le monde se faisait la bise et tout ça. Et donc ça remuait, ça cogitait dans ma tête ce truc-là. Mais quand tu vois le début de ce sketch, il est à chier. Il est tellement nul. J'ai aucune énergie sur scène. Je suis monotone. C'est horrible. Je l'ai re-regardé une fois depuis. Et c'est horrible.
Mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi c'est bien de faire parfois des cours, tu vois, de théâtre pour savoir que t'envoies. Enfin, tu vois, t'as cette fameuse truc de si tu donnes 75%, le public il va recevoir 25, quoi.
Ouais.
Tu vois, et il faut donner 150 pour que le public il entende 100, quoi.
Moi, je suis de l'école de pour ces trucs-là, il faut les vivre. Je suis pas hyper fan de ce truc de cours de stand-up. Alors théâtre, oui, parce que oui. Le théâtre c'est une vraie discipline où t'as. Je veux pas dire que le stand-up c'est pas une vraie discipline, mais pour moi la discipline c'est dans le faire en fait. Et t'apprends 50 000 fois plus en jouant 50 fois qu'aller à 50 cours de stand-up théorie et tout ça. Parce que oui, t'as des théories sur les blagues, mais en vrai je crois que être marrant, c'est pas. Je crois pas qu'on. Moi, on. Je crois pas qu'on peut apprendre à être marrant. Je crois que soit on est marrant, soit on a le potentiel de l'être. Et avec de la pratique et des scènes et des scènes et des scènes, tu deviens marrant pour des gens qui te connaissent pas. Mais si à la base t'as pas le potentiel, je crois que c'est très difficile. C'est comme être, je sais pas moi, chanteur.
Oui.
Soit t'as les cordes vocales pour le faire, soit tu les as pas.
Mais tu disais toi que t'étais hyper timide. Tu l'es toujours d'ailleurs.
Ouais, je suis toujours très timide. Mais je crois que c'est.
Ça se voit pas quand on.
Non, mais c'est sûr. Mais je crois que si tu demandes à 100 humoristes, je crois que t'en as 90 qui vont dire ouais, dans la vraie vie, je suis timide.
Mais alors ça vient d'où toi par exemple? Pourquoi tu décides de monter sur scène? Ce qui est quand même le truc le plus dingue, si tu regardes bien.
Ouais.
En termes de pratique humaine, de monter sur une scène avec plein de gens qui te regardent pour venir raconter des trucs, c'est pas du tout naturel.
Ouais, honnêtement, j'ai pas une bonne réponse, mais
je crois pas qu'il y ait de bonne réponse.
Je crois que dans nous, enfin, dans les gens qui sont timides qui font ça, je crois que quelque part c'est psychologiquement, si je m'assoyais avec un psychologue, je crois que ce serait.
Tu peux t'allonger hein, si tu veux.
Ouais, sur le canapé. Ouais. Mais je crois que ce serait une. En fait, c'est on cherche la validation de nous en fait, de notre vie, de qui on est. Et je crois que c'est ça en fait. On cherche la validation. Je pense.
Toi, tu cherches la validation aujourd'hui?
Je crois qu'inconsciemment, ouais. J'ai pas l'impression. Enfin, je. Mais si je cherche dans le fond de moi, ouais, sûrement. Sûrement, ça vient du fait que j'ai grandi dans plein d'endroits différents, plein de villes, des pays différents. J'étais toujours nouveau à l'école. Et puis, du coup, quand t'es à cet âge-là, tu cherches la validation d'appartenir à un groupe de potes, de faire tout ça. Et je crois que ça te forme pour la vie. Ça te, je crois que je dois chercher ça. Éternellement, ouais.
Tu cherches de l'amour aussi ou pas? Parce que ça doit quand même être complètement dingue de te faire applaudir par une salle de 500, 2000, là, le Grand Rex, ça fait quoi? C'est 3000 personnes, non?
2006.
Excuse-moi, mais.
Ouais.
C'est quand même beaucoup de monde.
Ouais, ça va être la plus grosse date que j'ai faite de mon spectacle. J'ai déjà joué devant plus de gens, mais pas pour 5-10 minutes. Ouais. Est-ce que je cherche l'amour? Non, je crois pas. Non, je sais pas. Là, c'est. Je crois que le début du stand-up, le début de monter sur scène et raconter. Je crois que c'est ça, mais maintenant, c'est plus le cas, en fait. Je crois. Je sais pas.
Ok.
Je sais pas. Je sais pas pourquoi on décide de faire ça. Mais après, tout le monde a sa propre raison. Il y a des
Bien
gens
sûr.
Qui.
Cherchaient la tienne, hein, tu vois.
Ouais. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a poussé où je me suis dit, quand j'ai vu ces mecs-là à l'université, je me suis dit, ils sont un peu nuls. Pourquoi moi j'ai décidé? En fait, en vrai, je crois que je cherchais pas forcément de la validation, mais quelque chose. Je me souviens, et j'ai raconté ça deux ou trois fois, que quand j'avais 12 ans, 11, 12 ans, j'étais hyper fan de catch.
Ah oui, moi aussi.
Tu regardais ça?
Bien sûr.
Quand c'était de WWF.
Yes.
Avant que les pandas disent, en fait, on a déposé la marque, ouais. WWF. Et du coup...
C'était qui ton préf?
Bah, c'était entre Stone Cold Steve Austin et The Rock.
Yeah.
C'était les deux. Après, j'aimais bien Mankind aussi et Kane. C'était un peu les quatre que j'aimais beaucoup. Mais il y avait quelque chose, que je crois, qui vibrait dans moi pour revenir à ce truc de chercher de l'approbation ou peut-être l'amour. C'était ce truc où, quand la chanson d'entrée se passait et il descendait vers le ring et qu'il y avait 20 000 personnes dans l'arène qui pétaient un câble, je sais pas, ça me faisait quelque chose parce que je me souviens très très bien que à l'école où j'étais à l'époque, quand tu rentrais, en fait c'était une école. J'ai du mal à décrire le truc sans visuellement. En gros, il y avait un entre la porte d'entrée de l'école qui était à l'extérieur, donc il y avait une arche où ouais. Tout le monde déposait en voiture et après tu traversais l'arche et ensuite tu traversais
une cour
mmh. Voilà, parfait, une cour où il y avait une allée centrale et deux bouts de verdure, okay. De gazon, et au fond de cette allée il y avait les trois salles où il y avait les casiers. Donc il y avait genre l'équivalent de 6e, 4e, 3e. Et du coup, je me souviens de vivre ce moment de rentrer dans le ring de catch quand je traversais cette allée avec les deux bouts de verdure. Je m'imaginais la foule parce que comme c'était une cour et il y avait des bâtiments tout autour aussi, j'avais cette imagination de et j'entendais la musique.
C'était quoi ta musique alors?
Bah, c'était Stone Cold Steve Austin, le bruit du verre qui pète. Ou c'était la chanson du rock aussi. Et ouais, je me souviens, peut-être 2 ans plus tard, c'est là où j'avais. C'était mon premier livre non roman.
Non-fiction.
Ouais, c'était pas un roman que j'avais acheté, c'était la biographie de Dwayne Johnson.
Ah ouais?
Ouais.
Ok. Qui est génial. Aujourd'hui, tu continues à suivre dans sa
carrière. J'ai l'impression qu'il a pas vieilli, tu vois. Ouais. Depuis que, mais forcément, quand je revois les vidéos de l'époque de 2000, de l'année 2000, quand je regardais ça, je me dis, il était complètement différent. Mais tu sais, quand les gens vieillissent, tu les vois pas vieillir.
Ouais, je suis d'accord.
Quand tu les suis.
Pour revenir à ton parcours, on a un peu digressé, mais c'était très bien.
Ouais.
Pour revenir à ton parcours, tu arrives en France en 2009, tu disais.
Yeah.
Et donc à l'époque, tu bosses chez Apple.
C'est ça.
Je suis
quand je suis arrivé en France, j'étais formateur, mais pour les clients. Okay. Le poste s'appelait créatif. Et en vrai, c'était les clients, ils pouvaient s'abonner au magasin et venir toutes les semaines pour un cours sur quelque chose. Mmh. Donc soit apprendre un truc sur l'iPhone, soit apprendre un logiciel comme iPhoto, soit apprendre à utiliser l'iPad.
C'était avant le Covid tout ça.
Ouais, c'était bien avant le Covid, oui. Donc en fait, en vrai, ce qui se passait là, c'était beaucoup de gens âgés où tu passais une heure à expliquer comment fonctionnait une souris. En vrai, c'était ça. Dans le job description, c'était plus créatif. C'est pour ça que ça s'appelait créatif. Ils cherchaient des gens qui connaissaient les logiciels iPhoto, Final Cut, iMovie. Mais en vrai, c'était voici une souris, voici comment elle fonctionne. Mais j'avais commencé 3 ans avant chez Apple, vendeur. Ouais.
Et tu bosses encore combien de temps quand tu es sur Paris? Pendant 1 an ou 2, c'est ça?
Non, c'était 5.
5 ans quand même.
Okay. Ouais, je suis arrivé en 2009. Là, donc j'étais formateur dans les magasins.
Ouais.
Au bout de 6 mois, je suis sorti des magasins pour devenir formateur, mais pour les nouveaux employés qui intégraient la boîte.
Okay.
Au bout de 2 ans de ça, je suis devenu formateur des formateurs.
Okay.
Donc, mais j'ai continué jusqu'à 2015. Donc en fait, c'était presque 6 ans.
Et pendant tout ce temps-là, tu continues à monter sur scène ou t'es...
Non, en fait, j'avais arrêté donc j'ai fait les scènes ouvertes à Londres. Je suis venu en France et j'ai arrêté pendant 4 ans. J'ai rien fait pendant 4 ans. J'ai repris le 4 janvier 2013, la scène. Et ça, c'est, pour moi, c'est mon début officiel parce que à Londres, ouais. Je voulais voir ce que ça donnait. Mais là, janvier 2013, je me suis dit, allez, on va tenter, de faire plus de scènes, de m'améliorer et puis de vraiment me mettre à fond. Donc janvier 2013 jusqu'à mai 2015, donc 2 ans et demi presque, je fais les deux en même temps.
Ok. Et C'est quoi ta première scène? Il y avait des scènes, je sais pas si ça existe toujours, il y a des scènes doubles, enfin anglais-français.
Alors les scènes doubles, je crois pas. Moi j'ai fait des plateaux dans les deux langues.
Okay.
J'ai créé mes plateaux d'humour, mais à la base j'ai commencé en anglais chez Sébastien Marx.
Okay.
Au New York Comedy Night, qui existe toujours là, c'est au Barbès Comedy Club, mais avant c'était un endroit qui s'appelait le Sceaux Gymnase.
Ah oui.
Qui était un grenier au-dessus du théâtre de gymnase au quatrième étage, un peu comme ici en fait, avec des poutres et tout petit, ça tenait 50 places. Donc c'était là ma première scène.
Ok.
En France.
Et tu fais un truc fou pour n'importe quel français, c'est que tu décides de quitter ton job chez Apple et tu ne veux pas prendre le chômage. Alors que t'avais droit en France après avoir bossé pendant toutes ces années.
Bah j'avais pas le droit parce que du coup justement alors mon manager à l'époque il était canadien.
Ok.
Il était basé au Canada. En fait toute mon équipe parce que entre guillemets l'équipe de formation d'Apple je crois qu'il y avait deux personnes basées en France, il y avait moi, une collègue à moi, mais tout le reste ils sont basés soit en Angleterre, soit au Canada, soit aux États-Unis.
Et donc vous étiez salarié au...
On était salarié officiellement Apple France. Okay. Mais nos managers, ma première manager dans cette équipe là était basée en Angleterre et mon deuxième était au Canada.
Ok.
Donc eux ils connaissent pas le système français.
Mais donc t'as quand même droit au chômage selon le système français.
Non, pas si tu démissionnes.
Ah oui, parce que tu décides de démissionner.
Bah oui, mais okay. C'était soit ça, soit je sors ma bite et je me fais virer. Et là, j'ai accès à 2 ans de. Mais bon, je crois que si tu sors ta bite,
sa bite, ça a permis à des comédiens d'aller loin. Hein.
Ouais, mais je suis pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai que.
Coucou Louis.
Ouais, salut. Mais et non, en vrai, je crois que c'est une faute grave. Donc en fait, t'as droit à rien si tu sors ta bite.
Non.
Mais il y a beaucoup de Français.
Ne faites pas ça pour vous non. faire licencier. Enfin, c'est pas ça.
Mais je crois qu'il y a beaucoup de Français qui pensent. Ça fait 6 ans que tu bosses dans cette entreprise et en fait, ils foutent rien. Et éventuellement, à un moment donné, l'employeur va en avoir marre. Il va dire tiens, rupture conventionnelle. Ça va. Mais ça prend 2 ans à rien glander, à pas faire. C'est quoi le truc où tu viens pas au boulot?
Abandon de poste.
Oui, abandon de poste. Tu vois, vous avez des termes pour ça en fait. Nous, le terme en anglais, you're a fucking idiot. Il y a pas un terme de abandon de poste. Oui, fait. Et donc les Français, ils me conseillaient, mais fais un abandon de poste, rupture conventionnelle, fais-toi virer. Tout pour avoir ces 2 ans de chômage. Et en vrai, j'ai demandé à la rupture conventionnelle et RH France, ils ont dit bah non.
Ah ouais?
Bah okay. Non, c'est toi qui démissionnes. C'est toi qui, comme un con, a décidé de suivre ses rêves. Donc, c'est ton problème en fait.
Va suivre tes rêves sans argent.
Ouais. Bah, c'est une compagnie américaine. Donc, du coup, ils ont pas cette.
Cette culture.
Cette culture de tiens, on va t'aider. Mais en même temps, je crois que ça m'a. En vrai, ça m'a aidé parce que ça m'a foutu la pression de me dire ok, bah, j'ai pas 2 ans de salaire là. Je vais écrire mon spectacle et prendre 2 ans pour prendre le temps de bien faire. Non, là c'était right. Dans 6 mois, faut que ça fonctionne. Faut que j'ai du boulot, faut que je gagne de l'argent parce que sinon ça va être un peu compliqué. Ma femme, elle travaillait donc et heureusement pour nous, on habitait dans un appartement qui appartenait à sa grand-mère. Donc on n'avait pas de loyer.
Ça aide pas mal.
Ouais, ça a beaucoup aidé. Mais en vrai,
surtout à Paris.
Oui, surtout à Paris. Incroyable. Donc ouais, on dépensait pas 1 300 € en loyer, enfin 750 € chacun. Non, ça c'était des mauvaises maths. Ça, c'est 650.
Ouais.
Putain, je suis nul en maths. Et donc du coup, je me suis dit ouais. Quand on s'est posé avec ma femme, on s'est dit si au bout de 3 ans ça fonctionne pas, soit je retourne chez Apple, soit je trouve un autre poste dans la technologie, enfin chez Google, Facebook, etc. Une des boîtes américaines.
Et assez rapidement, tu tournes cette fameuse vidéo qui s'appelle La Bise et qui te permet de décoller. Donc tu racontais tout à l'heure un peu la genèse de cette histoire, mais c'est quoi l'idée de te dire ok, ben en fait je vais en faire une vidéo sur Internet.
Tu veux la version longue ou la version courte?
On peut faire la version courte parce qu'on.
Ouais, bah la version courte, c'est en gros, c'est un sketch que je fais en France. Parce que donc la genèse c'était à Londres,
ouais.
Mais du coup en venant en France, bah ça a évolué, ça a changé. Et puis en vrai c'était les premières 5 minutes qui fonctionnaient vraiment bien sur scène. Donc c'était toujours la fin de mes 5 minutes sur scène. Je fermais là-dessus et c'était drôle et crescendo jusqu'à la fin. Donc ça, je fais 2 ans et demi, 3 ans de ce sketch-là. Et il y a un pote à moi qui suggère pour faire la promo pour son show en anglais. Donc c'était pas Sébastien Marc, c'est un autre pote qui
c'est
fait.
Comedy Fried Chicken, c'est ça?
French Fried Comedy. Okay. C'était pas loin. Comedy Fried Chicken, on reste dans le fast food, hein. Et c'était pas loin. Ouais, French Fried Comedy. Et ça jouait au Paname Comedy Club. Et pour faire la promo, ils voulaient faire une vidéo. Et du coup, on a décidé de filmer mon sketch sur la bise. Mais au lieu de me filmer moi sur scène avec un public qui rigole, moi j'avais eu l'idée de le filmer en plan séquence où je parle face cam. Donc on fait ça fin de l'année 2015. Et elle sort 1er janvier 2016.
Boom. Le buzz.
Ouais. Alors pas tout de suite. Au bout de 5 jours, il y avait 1000 vues.
Ouais.
Et ensuite, mon pote Urbain qui travaille chez Topito.
Coucou Topito.
Salut Topito.
Je les aime beaucoup, tu sais, c'est mes copains.
Bah ouais, ils sont...
Je vous mettrai un lien si vous ne connaissez pas Topito. J'ai interviewé Laurent et Benoît.
C'est vrai,
Laurent,
trop bien.
Dans mon podcast.
Bah, ils viennent de se faire acheter.
De céder, ouais.
Ouais. Show me the money. Et du coup... Bref, Urbain, il me dit, est-ce qu'on peut reposter cette vidéo? Bien évidemment. Et à partir de là, en 2 jours, 1 million de vues. Et 3 jours plus tard, Canal+, qui m'envoie un message sur Facebook. Enfin, une chercheuse de talent.
Ouais.
Ça se dit, chercheuse de talent? A headhunter. Elle m'a dit, est-ce que...
Christelle
Graillot. Okay. Salut Christelle, si tu écoutes ça.
Coucou Christelle.
Enfin, je crois que c'était une personne qui travaille avec Christelle. Oui. C'était pas Christelle directement, et je me rappelle plus. It doesn't matter. Envoie un email, viens au bureau, on aimerait bien te rencontrer, tout ça. Je fais la réunion, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Chronique, y a plein de trucs que tu peux faire. Et en vrai, moi, je savais pas, j'avais aucune idée. Et du coup, mon pote avec qui j'avais tourné la vidéo, lui, il était déjà un peu en contact avec un producteur qui s'appelle Lorenzo Benedetti, qui travaillait Studio Bagel.
Studio Bagel, ouais.
Qui était racheté par Canal+.
Et oui.
Et donc, du coup, en fait, mon délire s'est transféré vers Studio Bagel. Avec Lorenzo, avec qui on bosse avec un réalisateur qui s'appelle Félix, sur le format What the Fuck France. Donc ça, tout ça, ces réunions-là, c'est janvier, février, mars.
Ça va à toute vitesse, quoi.
Avril 2016.
16.
On tourne le pilote en avril, il est nul, et on doit changer plein de trucs. Et en vrai, on tourne épisode 1 et 2 en juillet 2016 pour une diffusion en septembre. 2016 sur Canal et une semaine plus tard sur YouTube. Et à partir de là,
t'as fait combien d'épisodes?
Plein, on en a fait 34 total. Okay. Donc mais on tournait au fur et à mesure, c'était pas genre on tournait vraiment une année toutes les 2 semaines. On tournait 2 épisodes le mardi et mercredi, c'était 2 tournages d'épisodes. En vrai, on travaillait sur 6 épisodes à la fois, l'écriture de 2, le tournage de 2 et le montage de 2.
Waouh. Beaucoup de travail.
Ouais, c'était une année assez intense parce qu'en même temps de tout ça, j'avais mon premier spectacle qui tournait parce que donc la bise, la vidéo, elle sort 1er janvier 2016, mais mon premier spectacle, il commence le 9 janvier 2016.
Waouh.
Gratuit au chapeau, au Saut Gymnase, dans cette cave, pas la cave, le grenier du théâtre du gymnase, gratuit au chapeau. Donc complet pendant 3 mois.
Parce qu'en gros, pour les gens qui connaissent pas, mais il y a des scènes où vous pouvez venir, vous venez gratos.
C'est ça.
Mais vous payez en sortant et vous donnez ce que vous voulez.
C'est ça. C'est la version où on n'est pas encore prêt à payer un loyer à un théâtre pour louer une salle. Parce que si tu fais ça, bah, tu mets une vraie billetterie. Mais du coup, les gens, ils payent 10, 15, 20, 30 euros la place. Et c'est un grand risque. Lorsque si, avec la salle, on se met d'accord, on paye pas de location. Mais vous prenez tout ce qui est consommation au bar. Du coup, le bar se fait de l'argent. Et à la fin, si les gens ils ont aimé le spectacle, bah, du coup, ils nous donnent un petit tips dans le chapeau. Donc, comme pour réserver les places, c'était gratuit, bah, du coup, c'était complet. Et après, au bout de 6 mois, je rencontre Fanny Jourdan, qui est ma productrice, qui gérait le Centre Cédéal à l'époque. Qui me dit, ouais, est-ce que tu veux tenter une vraie billetterie dans un vrai théâtre où tu gagnes un vrai cachet et tout ça. Donc on teste le mois de juillet 2016. Donc tout ça, c'est avant What the Fuck qui sort 2 mois plus tard. Les 4 spectacles étaient complets. Et en septembre, on commence vraiment à travailler ensemble. Et mon premier spectacle sous Fanny Jourdan, la productrice, était le jour du lancement de What the Fuck. Et on a diffusé la... What the Fuck à la fin du spectacle le 10 septembre 2016.
Waouh. Mais alors donc tout ça en moins d'un an.
Tout ça en moins d'un an, ouais. Parce que en fait j'avais démissionné en mai 2015. Janvier 2016 c'était la bise et en vrai depuis ce moment-là j'essaye juste de pas refaire tomber la vague. J'ai l'impression d'être sur cette vague et j'ai peur que si j'arrête de bosser même 3 mois, bon, on enlève l'année et demie de Covid.
Et même, c'est là, enfin, on va en parler, mais c'est là que t'as lancé ton format live.
Alors, je crois que c'est ça aussi, c'est que depuis, j'ai peur d'arrêter parce que j'ai peur que après tout se casse la gueule parce que ça peut monter très vite dans ce milieu, mais ça peut aussi descendre très vite. La descente peut être 2 fois plus vite que la montée, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je n'arrête pas de continuer à essayer de trouver des trucs.
T'as peur?
Ouais.
Que ça s'arrête?
Ouais, parce que je sais qu'on est assez éphémère. L'entertainment est assez éphémère. Il n'y a pas beaucoup de gens qui durent longtemps. Il y en a, mais pas tant que ça. Si je prends les gens avec qui je me souviens que j'avais commencé le stand-up en 2013, il y en a, je dirais la moitié sont toujours là et l'autre moitié non.
Et t'as peur de faire partie de... Mais en fait...
Après, je dis ça, mais en vrai, le petit cadre qui est juste en haut ici, là, j'ai un cadre, j'ai encadré 1,20€. Et c'était le premier argent que j'ai gagné en faisant de l'humour. Et c'était dans une soirée qui s'appelle le Calamity Joke, le 26 avril 2013, donc 4 mois après avoir commencé en janvier. Et en vrai, dans cette soirée-là, il y avait Tania Dutel.
Qui est aujourd'hui produite par...
Qui est aujourd'hui produite par Fanny. Et Adrien Arnoux. Je sais pas si tu vois qui c'est, un autre humoriste aussi. Et un autre qui s'appelle Franck Brusset. Mais lui, il a arrêté le stand-up, il est plus sur YouTube.
Ok.
Donc, en vrai, ce que je viens de dire, ça annule... ce que je viens de dire avant, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui restent. Nous, on est tous restés. Moi, Tania et Adrien. Et je garde ça parce que je me souviens quand on a eu 5€ dans le chapeau et on a dû le splitter entre nous quatre. Alors, nos maths ne sont pas très bons hein, parce que ouais. 5€ divisé par 4, ce n'est pas 1,20€.
C'est 1,25€, mais vous n'aviez pas la monnaie, j'imagine.
C'est ça. Et en plus, comme Franck Brusset, c'est lui qui a présenté, on lui a dit, bah, tiens, prends les 20 centimes de plus. Et donc j'ai gardé, c'est les vrais 1,20€ parce que
à quoi ça te sert?
Je sais pas, juste fois quand on parlait tout à l'heure de...
C'est pas anodin, tu les as encadrés, mec.
Ouais, mais tu sais, c'est parce que je savais à l'époque, je me suis dit, je les ai pas encadrés tout de suite, je les ai gardés dans une boîte avec les premières livres sterling que j'ai gagnés, avec les premières yuan chinois que j'ai gagnés, les premiers dollars américains que j'ai gagnés, juste parce que je me suis dit, peut-être un jour, si ça fonctionne, je pourrais re-regarder ça et me dire, putain, ça c'était le jour. Et sur mon Instagram, j'ai la photo de l'Eurovin où j'ai dit, aujourd'hui c'est le premier jour où j'ai gagné de l'argent, je suis techniquement un humoriste professionnel.
En 2013, donc tu l'avais passé l'époque.
Ouais, donc là, la soirée c'était le 26 avril et sur mon Insta, ça doit être le 27 avril 2013. Ouais. Donc, wow. Donc ouais, je le garde là juste parce que je me dis... En vrai, je le regarde pas très souvent parce que, comme on a dit tout à l'heure, je prends pas assez de temps mentalement pour repenser à où je suis.
Te congratuler.
Ouais.
Te féliciter.
Ouais, pas pour me féliciter, mais pour apprécier là où je suis, d'où je suis venu et là où je suis arrivé, en fait.
Ok.
En vrai, tout le monde j'imagine tout le monde que tu interviews, tout le monde a eu un début comme ça, un peu, que ce soit des humoristes ou pas, et puis essayer de se rappeler du début, ça peut être important mentalement, de la santé mentale, pour se dire non, en fait, ça va très bien, en fait.
Oui, parce que
je suis heureux.
T'as tendance à croire que ça va plus mal que ce que ça va, en fait, objectivement.
Ouais. Ok. Mais je crois que tout le monde est pareil.
Non.
Non. Peut-être c'est juste moi alors.
Mais non, c'est pas juste toi, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais comme tu dis, t'as peur aussi que la vague.
Ouais, donc je me concentre sur le maintenant et j'essaye. Je regarde pas trop le passé, le futur un peu plus, parce que je me dis ok, voilà, dans 3 mois le spectacle on va le capter, donc machin, donc j'essaye de penser un peu plus à ça. Mais ouais, c'est plus le moment où je me dis ok cool, ça se passe bien, ou je suis frustré parce que cette soirée s'est pas bien passée, c'est à moi rigoler et en vrai c'est en regardant vers l'arrière où j'aurais plus de l'apaisement mental pour me dire ça va, je suis heureux, je suis bien.
Parce que ton nouveau spectacle là qui s'appelle So British ou presque,
c'est ça.
Tu l'as joué à peine quelques mois, en fait, avant que ça s'arrête.
Ouais, je l'ai joué, alors à peine quelques mois, mais pas mal de fois, dans le sens où j'ai commencé en octobre, octobre 2019, mais j'avais fait trois fois par semaine à Paris, donc j'ai joué une trentaine de fois à Paris, et je crois que j'ai fait 10 dates de tournée avant que ça s'arrête en mars 2020. Et là, j'ai repris depuis... j'avais repris juste avant l'été, donc à Grenoble, Caen et Londres. Il y avait la pause de l'été, où tout ferme en France pendant 2 mois. et après, là, je viens de reprendre la tournée de 2020, en fait. Parce qu'à la base, j'étais censé finir ce spectacle en juin 2020. J'allais faire toute la tournée et terminer au Grand Rex. Et du coup, bah, tout était décalé. Donc le Grand Rex, maintenant, c'est pas la dernière date. Et la dernière date, ça va être à Londres fin janvier.
Trop bien. Ouais. Comment ça se passe quand tout ferme là en mars 2020, pardon, et que t'es dans ce truc de oh mon Dieu, si ça risque de s'arrêter pour toi dans ta tête.
Bah là, on savait pas trop. Pour moi, ça allait durer 2 semaines, 3 semaines.
Tu croyais.
Mais je crois que tout le monde était dans ce truc-là. C'est genre bon, ok, si on part en confinement 2 semaines, le truc il dégage et puis on peut recommencer.
Ok.
On savait pas que ça allait durer 2 ans, enfin 1 an et demi. Mais donc le premier jour du confinement, c'est le 17 mars, c'est la Sainte-Patrick, donc très cher à mon cœur, vu que ma mère elle est irlandaise. Et j'ai l'habitude, souvent, le 17 mars, de sortir avec mon pote écossais et ma femme dans un pub irlandais et on boit des Guinness. Là, on pouvait pas. Donc, c'est le jour où je dis « fuck it, je vais célébrer ça avec le public ». Donc, j'installe mon téléphone, le téléphone de ma femme et mon téléphone de travail. J'ai un téléphone aussi avec un autre numéro pour le boulot. Des fois, j'utilisais ça pendant mon spectacle. Et en fait, sur les 3 téléphones, j'étais live sur Facebook, YouTube et Instagram. Et du coup, la vidéo, elle est sur YouTube. Mais du coup, on me voit regarder les 3 objectifs de la caméra en essayant et je crois que j'étais sur mon ordi en même temps pour voir les commentaires des trois plateformes. Et donc, j'étais là en mode live artisanal sur les 3 plateformes. Et j'ai tellement kiffé que je crois que c'était une semaine plus tard. Je me suis dit, tiens, en fait, je m'emmerdais tellement pendant deux semaines que je me suis dit, tiens, je vais faire des lives tous les jours. Donc, je fais des lives, je commence à faire des lives tous les jours à partir du, je crois que je m'en rappelle plus quelle date, mais c'était fin mars, tous les jours à 18h au début, l'heure de l'apéro. Happy non, à 17h parce que le truc, ça s'appelait Live 5. C'était le nom de l'émission.
Toujours des bons concepts anglais.
Ouais. Et du coup, je crois que j'ai fait une vingtaine, non, une trentaine d'épisodes, donc tous les jours. Et à un moment donné, ils annoncent le déconfinement, je crois. Je me rappelle plus exactement, et du coup, comme les gens ils rentraient, ils retournaient au boulot, je me rappelle plus, je me suis dit je vais décaler d'une heure parce qu'à 17h les gens ils sont toujours en train de travailler. Donc là je fais 18h et je renomme le truc parce que Live 6, ça a pas le même nom, le même truc que Live 5. Donc je me suis dit je vais trouver un nom pour que ça peut être à n'importe quelle heure. Si je décide que c'est à 21h, 19h, whatever, donc j'ai trouvé Happy Hour Live. Et je continue à faire ça tous les jours parce que moi j'avais plus de boulot, les gens ils sont retournés, mais les salles étaient pas ouvertes, mais les gens ils pouvaient retourner travailler, et donc moi j'ai continué à faire ça tous les jours jusqu'à juillet, mi-juillet je crois. Donc j'ai fait au moins je crois 80 épisodes de ce truc là. à la rentrée, comme les salles allaient réouvrir, je me suis dit au lieu de faire ça tous les jours, je vais faire ça une fois par semaine, un jour après mon spectacle que je jouais 3 fois par semaine à Paris. Donc c'était les jeudis à 10h après mon spectacle, enfin à 22h. Donc toujours tout seul. Là, à la rentrée, j'occupe cet espace de chez ma productrice, que c'était le grenier où il y avait le stock de tout le monde. Et j'ai dit, est-ce que je peux repeindre le mur et tout ça? Parce qu'en vrai, je faisais chez ma femme et ma fille à la maison de faire ça tous les jours à 18h. C'était horrible pour eux, elle. Et du coup, je viens ici la rentrée une fois par semaine. Ça se passe bien. Après, il y a le couvre-feu. Donc le couvre-feu, je décide, on n'a pas le droit de sortir de 21h à 6h. Bah ok, bah si j'arrive au studio avant 21h et je repars après 6h, je vais faire un live de 10h. Non, 10, 11, 12.
Pas très.
6, 9h.
9h.
Je vais faire un live de 9h, un marathon. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai continué une fois par semaine jusqu'à la fin de l'année. Et début de 2021, je me dis, ce serait cool d'avoir un guest toutes les semaines, plutôt que ça soit juste moi à raconter et répondre aux questions, pourquoi pas avoir le format où j'ai un guest avec moi. Et donc c'est devenu ça maintenant, tous les lundis à 20h. J'ai un guest et puis on est à moitié en entretien comme ça en podcast ou là, mais il y a le public en direct que eux ils posent des questions aussi, donc ça ajoute un côté interactif aussi.
Et t'as des guests français, t'as des guests qui sont anglophones aussi.
Ouais, c'est un mélange entre anglophone, francophone, un mélange entre humoriste, youtubeur, sportif, musicien. Enfin, depuis que j'ai commencé, j'ai eu d'autres. J'ai commencé avec des potes humoristes parce que on commence tous par nos potes, et après. J'ai une des musiciens qui m'ont contacté, enfin des agents de musiciens, des gens qui gèrent des clubs de foot, donc c'est vraiment devenu il y a mais quand même plus d'humoristes qu'autre chose parce que
oui.
C'est les contacts que j'ai,
des formations.
Ouais. Mais je t'invite quand tu veux faire le live si t'es dispo les lundis à 20h à un moment donné, ce serait cool de t'avoir pour avoir encore un autre
avec grand plaisir
un autre profil.
Je sais
tu décrirais comment
aujourd'hui
entrepreneur.
Ouais, entrepreneur, créateur de contenu, tu vois.
Mais ce serait cool.
Content creator. C'est ça. Tu parles beaucoup de ton enfant et tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron.
Ah ouais. Eh ben écoute, on va se reprogrammer une date pour faire l'histoire de Daron.
Tu parles beaucoup de ton enfant sur scène.
Ouais.
Aujourd'hui, elle a 2 ans.
Ouais.
Mais ça a l'air de pas avoir été très très facile.
Non.
Et tu dis un truc notamment sur scène qui moi m'a incité à lancer mon podcast. C'est en fait, on parle beaucoup des choses. On te dit ouais, tu vas voir, ça va être compliqué, mais on n'explique pas les vrais trucs.
Ouais.
Et toi, t'expliques les vrais trucs.
Ouais.
Et notamment. Le jour où t'as fait tomber ton enfant, enfin où ton enfant est tombé.
Ah oui, je le fais plus ce truc-là.
Ah,
en fait,
tu l'as enlevé
parce que comme je l'ai enlevé juste parce que j'ai plus le temps dans le sens où comme elle a grandi, il y a des nouvelles trucs à raconter.
Ah.
Donc ça c'était les histoires que je racontais quand elle avait 6 mois, 1 an. Mais depuis,
tu changes, tu mets.
Bah, je suis obligé parce que c'est difficile de dire oui. Alors quand on faisait son biberon avec le lait machin. Mais j'aimerais. En fait, je crois que ce que je vais faire, je vais jouer ces trucs à un moment donné, je vais les capter pour pouvoir pas les perdre en fait, les jeter à la poubelle. Mais en vrai, ouais, maintenant, mon spectacle, il doit durer 1h20 sans ces trucs-là déjà.
Ok.
Mais oui, effectivement, je parlais du fait.
Tu continues à parler de paternité alors
ouais,
dans ton
ouais.
spectacle.
Ouais. En fait, les 20 minutes ou 30 minutes de, je m'en rappelle plus, j'ai pas le chronomètre, ouais. mais disons les 20 minutes sur être papa évoluent au fur et à mesure de l'évolution de la petite.
Ok. Ah oui, donc tu fais un spectacle
vivant.
Tu le fais évoluer au fil de l'eau, quoi.
Ouais.
Comment ça se passe, t'es heureux d'être papa?
Un peu plus qu'avant. Vraiment, je dirais les 2 premières années, c'était dur. 1 an et demi, c'était au bout d'un an et demi, ça commençait un peu à aller mieux. Mais et surtout, il y avait le Covid aussi, donc ça a pas du tout aidé. Donc elle avait 9 mois au début du Covid et du coup. Mais même les premiers 9 mois, on n'était pas en Covid, c'était vrai, on a beaucoup galéré. Mais je crois que c'était lié principalement au fait que on a personne, parce que toute la famille de ma femme sont morts et moi, ma famille, elle est pas là. Donc elle est en Angleterre. Enfin, mon père il est au Portugal, ma mère est en Angleterre et du coup ils peuvent pas. Il y avait personne pour juste s'occuper de la petite un moment et avoir une pause là-dessus. Donc ouais, c'était dur. Mais ça va un peu mieux là.
Ok. Je vous souhaite tout le bonheur.
Eh ben, moi aussi.
Merci beaucoup, Paul.
Eh ben, merci à toi. Et puis, on se refera l'histoire des darons. Et tu feras mon live.
Avec grand plaisir.
Right.
Je mettrai tous les liens pour aller te voir. Notamment, bah, t'es un peu partout en France, là.
Ouais.
Et puis, on parlait du Grand Rex.
Du Grand Rex. Je sais pas quand c'est diffusé ce truc-là, mais.
Ouais, bientôt.
Bientôt. Bah, c'est Grand Rex, 19 et 20. Dans une ville pas trop loin, peut-être, de chez toi.
Ouais. Tu fais plein de. Tu fais pas
ouais,
de,
jusqu'à janvier. Fin janvier, c'est la fin de la tournée.
Et puis, si vous voulez aller suivre Paul sur Insta, c'est Pity Comedy.
Pété comédie.
Et en revanche, il vous follow pas. Hein.
Ouais, c'est ça, désolé, je vous follow pas. C'est pas que je vous aime pas, c'est que j'ai pas le temps.
Merci, Paul. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.